de redémarrer. Voilà en gros l'action d'un Forjeune Laeken. Et vous dire aussi qu'aujourd'hui, durant cette période de déconfinement et durant la période de confinement, nous avons eu beaucoup de questions ayant trait à l'école, puisque des mesures variées, diverses, ont été prises pendant toute cette période particulière.
Merci Chantal. Et tu as parlé de projet, je pense qu'il y a eu un projet qui a eu lieu aussi pendant le confinement. Et c'est ce qu'on va écouter aujourd'hui lors de nos pauses musicales. Donc c'est un slam. Est-ce que tu peux nous l'introduire peut-être, la première partie ici qu'on va lancer tout de suite?
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que durant le confinement, eh bien, on a fait du télétravail et on était en contact, en visioconférence avec un certain nombre de jeunes qui suivent des projets avec nous et qui participent à des projets avec nous. Et est née l'idée de s'exprimer à travers un slam, à travers une poésie, sur le ressenti face au confinement et sur les questions en termes de démocratie, en termes de violence policière, en termes de politique sanitaire, de suivi journalistique, etc., qui pouvaient émerger. Donc il s'agit d'une réalisation, d'une création collective et le texte est lu par Thomas Links.
Et donc, ce sont les claques murées et les têtes à claques, chapitre 1, Bleu de liberté.
Des claques, des claques. Le virus a vidé la ville. Les portes claquent et les murs grondent. Dans quelques heures, nous serons cloîtrés. Une étrange atmosphère s'empare de nos rues, entre hébétude, sidération et frénésie. Des grandes surfaces sont prises d'assaut. Des bagarres éclatent ici et là. On se dispute des petits riens. Le papier de toilette attise les plus grandes convoitises. « C'est la guerre !» tonne notre voisin Macron. Et en période de guerre, c'est bien connu, la disette est plus fréquente que les emplettes. Ridicule, égoïste et pathétique, ces idiots qui se ruent sur le papier cul. Mais vous ne comprenez pas, la peur prend les gens aux tripes. Est-ce déraisonnable de craindre la pénurie? Rappelez-moi, combien de masques, de tests, de respirateurs nous reste-t-il en stock? Midi. L'heure du confinement a sonné. La RTBF nous le rappelle sans discontinuer. Restez chez vous, répète-t-il en boucle. Au galop de l'urgence, nous voilà invités à nous délester de nos libertés les plus chères. Bouger, se rassembler, s'aimer, se mélanger, rien de tout cela n'est au goût du jour, c'est énorme! Y a-t-il aucune autre solution? Moins liberticide et peut-être plus efficace? L'heure n'est pas aux palabres, ni aux caprices. Ne soyez pas égoïste ou inconscient, c'est la seule et unique solution. Nous n'avons que trop tardé, c'est la voie de la raison. Les bleus quadrillent le quartier. On les entend et on les voit partout, tout le temps. Cela vous stresse? Vous auriez quelque chose à vous reprocher? Un ami planqué dans le placard? Un enfant en visite? Le temps est venu de sévir, d'avoir la main lourde, tolérance zéro, qu'il disait. On dresse PV et illico, presto, vous le payez.
Des claques, des claques.
Moi, c'est mes clics et mes claques que j'ai envie de prendre. Moi, c'est mes clics et mes claques sûres d'avoir envie de vivre. Sûr du tout d'avoir envie de vivre dans votre monde.
Ce matin, 10h, par la fenêtre, je regarde avec tendresse des petits vieux qui trottinent plus qu'ils ne marchent. Ils se déplacent étape par étape et profitent d'instants de répit, un répit de courte durée. Toute sirène hurlante, la voiture des bleus déboule sur la place. Les pandores sont vénères, ils hurlent plus qu'ils ne parlent. Vous n'avez pas encore compris, vous devez rester mobile dans l'espace public. Circulez, ou je vais verbaliser. Circulez, je vais verbaliser.
Des claques, des claques.
17h, le même jour. J'entends les crissements de pneus d'une voiture qui s'arrête avec fracas. Je relève la tête. Devinez qui je vois? Les bleus! Un spectacle m'attend, dans la plus pure tradition de Guignol. Un policier à grosse moustache et à grosse voix s'égosille. Vous êtes trois, vous êtes trois, vous n'avez pas le droit, je vais verbaliser! Farce et malicieux, trois adolescents de 13 à 14 ans jaugent la situation. En une fraction de seconde, s'élance en trombe. Il court et s'égaye en trois directions. Engoncé dans ses kilos et ses années de trop, Moustache reste cloué sur place. Je ris. Ce soir, les petits-enfants ont vengé l'humiliation des grands-parents.
Tête à claque, qu'ils disent.
C'était donc les claques murées et les têtes à claque, le chapitre 1, Bleu de liberté. Nous allons maintenant recevoir Eric Brüggemann, juriste à Forjeune Laeken, que nous allons joindre par téléphone. Et ça sonne, je pense.
Bonjour.
Bonjour Eric, comment ça va?
Bonjour.
Bonjour.
Ça va Julien? Bonjour Chantal.
Coucou.
Bonjour Aurore.
Ouais. Alors Eric, coucou. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai une question en deux temps pour toi. Ma première question, donc, c'est: durant la période de confinement, les travaux réalisés par les élèves peuvent-ils être cotés?
Donc ça, c'est ta première question. Pendant la période de confinement, non, mais on ne pouvait pas coter les travaux. Et donc, ça veut dire pas d'évaluation sommative, comme on dit, c'est-à-dire pas de points. Par contre, on a effectué normalement une évaluation formative, c'est-à-dire ce qui était permis. C'est-à-dire une évaluation formative, ce sont des commentaires de la part de l'enseignant, hein, qui met par écrit, pour pointer ce qui va bien, pour aussi éventuellement mettre en exercice ce qui va moins bien, dans le but de permettre à l'élève de remédier à ses difficultés et d'aller de l'avant. Donc voilà. Mais pas de cotation qui peut être prise en compte pour une évaluation sommative. Voilà.
Et ben donc on arrive à la deuxième partie de ma question, justement, si le travail a été fructueux et donc a été bien fait, est-ce que ce travail peut être pris en compte et si oui, dans quelle mesure?
Oui, donc l'évaluation formative de ce qui s'est fait comme travaux pendant la période de confinement peut être prise en compte à condition qu'effectivement ça aille dans le sens où ça peut bénéficier à l'élève. C'est-à-dire que s'il y a eu vraiment des travaux intéressants, positifs, qui se sont fait valoir, à ce moment-là, ça peut être pris en compte. Par contre, on ne peut pas utiliser les travaux qui auraient été faits pendant la période de confinement au détriment de l'élève. Donc, si effectivement il y a eu trop de difficultés ou des choses comme ça, on ne peut pas en tenir compte pour évaluer négativement l'élève à la fin.
Alors, Eric,
voilà.
Oui. Tu es toujours avec nous?
Oui, je suis là.
Ah, bah, parfait, oui. Alors voilà, une troisième ou deuxième question, c'est selon, on peut le dire, hein, l'année scolaire a été quand même bien chahutée. Alors, qu'en est-il des épreuves extérieures certificatives comme le CEB, le CE1D ou le CESS? Est-ce qu'ils sont maintenus ou non?
Eh bien non, hein. C'est donc ce que tu viens de dire, le CEB, CE1D, CESS, ce sont donc ce qu'on appelle les épreuves externes, donc qui maintenant depuis quelques années sont diffusées à toutes les écoles de tous les réseaux, donc par la communauté française et conçues par le ministère. Donc ces épreuves, les épreuves en tant que telles, ne sont pas diffusées auprès des écoles. De même que les écoles ne sont pas amenées non plus à organiser, quelle que soit l'année, des sessions d'examen maintenant en fin d'année. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évaluation. Il y aura des évaluations, mais ces évaluations seront faites sur base du travail antérieur qui aura été effectué et, comme on le disait là tout de suite, aussi sur base des évaluations formatives durant le confinement, à partir du moment où ça permet d'être à l'avantage de l'élève, quoi. Donc voilà, en résumé, ce qu'on peut dire.
Mais donc on comprend bien, il n'y a pas d'épreuve externe certificative, il n'y a pas non plus d'examen à l'interne, mais les diplômes peuvent être délivrés par le conseil de classe.
Bien sûr, les diplômes continueront à être délivrés et donc il ne faut pas perdre de vue non plus que la recommandation qui a été faite dans le contexte tout à fait exceptionnel dans lequel on est, donc lié à la crise du Covid, c'est que l'échec d'un élève et donc le redoublement doivent être une mesure tout à fait exceptionnelle et que donc l'idée c'est de faire en sorte que le maximum d'élèves obtiennent leur diplôme s'il s'agit d'une année certificative ou passent dans l'année supérieure.
D'accord.
Merci Rick, voilà. Je pense qu'on a bien compris pour tout ce qui était la partie évaluation. Maintenant, oui. On va essayer d'aborder la partie matière. Donc, on a souvent entendu que pendant la période de confinement, on ne pouvait pas voir de nouvelles matières. Est-ce que c'était bien le cas? Est-ce que ça a bien été suivi?
Ouais.
Et est-ce que maintenant, est-ce qu'on peut voir, maintenant qu'on est en train de déconfiner, est-ce qu'on peut voir de nouvelles matières ou est-ce que c'est toujours le cas qu'on ne peut pas en voir de nouvelles?
Alors, donc, effectivement, comme tu disais, Julien, dans la période de confinement, on ne pouvait pas voir de nouvelles matières à distance, hein, donc, puisque c'est comme ça que ça se passait, à distance. Maintenant, pour ceux qui ont pu retourner à l'école à partir du 18 ou à partir du 25, donc c'est pas tout le monde, mais bon, certains élèves, hein, donc notamment maintenant donc les classes terminales du 6e et 7e secondaire, les 2e secondaire depuis le 25, les premières et les deuxièmes années primaires et la 6e primaire. Donc, on peut voir des nouvelles matières, on peut faire de nouveaux apprentissages, mais attention, évidemment, il ne s'agit pas de rattraper le temps perdu, ce qui serait complètement idiot, illusoire, quoi. Donc, le but de ce redémarrage à l'école, maintenant, en fin d'année scolaire, c'est de reprendre contact avec l'école elle-même, avec l'environnement scolaire, donc avec le groupe, avec les camarades, avec les profs, pour reprendre justement ce qu'on, comme on dit, faire refaire ou reprendre ses marques, quoi. C'est ça l'idée, hein. Et donc là-dessus, évidemment, on continue de nouveaux apprentissages, je dis bien pour ceux qui retournent à l'école. C'est surtout important pour les années terminales, c'est-à-dire les 6e primaires et les 6e ou 7e secondaires. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'année suivante, ces élèves-là vont changer de niveau d'études. Donc, il va y avoir, comme on dit, un saut qualitatif. Ils rentrent dans un nouveau système, en quelque sorte. Et donc là, il est quand même important de les préparer pour ce changement de niveau d'études, hein. Mais par rapport donc aux élèves qui continuent à suivre l'enseignement à distance, puisque tout le monde ne retourne pas actuellement à l'école, pour ceux qui continuent l'enseignement à distance chez eux, c'est toujours la règle d'avant qui prévaut, c'est-à-dire pas de nouveaux apprentissages, mais de la remédiation et de la consolidation.
D'accord, voilà. Merci Eric. Je repasse la parole à Chantal.
Eh oui. Alors, ma question pour toi, Eric, est la suivante. Ouais. Est-ce que l'enseignement à distance, c'est l'avenir?
Alors, l'enseignement à distance, maintenant, évidemment, vu cette période tout à fait exceptionnelle à laquelle on n'était pas du tout préparé, a vraiment été, je dirais, un palliatif et une mesure de remplacement en urgence. Bien sûr, sur le plan technologique, bon, du côté du ministère, oui, bon, je veux dire, techniquement, la possibilité était là. Maintenant, ça ne veut pas encore dire pour autant que cette formule est souhaitable, je dirais, souhaitable. Il n'est pas souhaitable qu'on la proroge, qu'on la prolonge pour autant, quoi. Disons-le clairement, quoi, l'enseignement à distance, ce n'est pas une école, quoi. Ça ne remplace pas l'enseignement à distance, ne remplace pas l'enseignement en présentiel. Et pourquoi? Ben, je dirais, en gros, il y a deux types de raisons. Il y a, je dirais, des raisons plus sociales, de type social, et puis il y a des raisons de type pédagogique. Alors, pour résumer, dans les raisons, je dirais, de type social, bon, il est clair que, ça tout le monde, je pense, le sait, c'est que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas un environnement ou un espace suffisamment adapté à l'apprentissage à la maison via l'enseignement en ligne. Tout le monde n'a pas non plus, même si beaucoup de gens ont un ordinateur à la maison et ont l'Internet, et tout le monde n'a pas non plus le même niveau de technologie à sa disposition. Et puis aussi, il faut pas oublier, surtout pour ceux qui sont encore dans l'enseignement obligatoire et les plus jeunes particulièrement, tout le monde n'a pas le même type d'encadrement et de suivi possible à la maison. Quand on a à la maison les parents qui ont fait l'université, c'est pas du tout la même chose que quand on est dans une famille où les parents, par exemple, ont du mal à maîtriser la langue déjà. Donc vraiment, on peut être dans des sphères culturelles très différentes d'un foyer à l'autre, et ça met vraiment aussi les personnes sur un pied d'inégalité. Donc en gros, à ce niveau-là, c'est clair que l'enseignement à distance renforce les inégalités. Hein, donc sans compter que bon, on parlait d'environnement adapté ou pas, ben, il y a évidemment l'espace proprement dit dont on peut bénéficier en termes physiques, mais aussi le fait d'être dans un espace bruyant ou pas. Donc tout ça, ce sont des éléments qui jouent. Et ça, je dirais, ça fait partie des raisons de type social. À côté de ça, je disais, il y a des raisons pédagogiques qui sont tout aussi importantes et tout aussi sérieuses, évidemment. Dans les raisons pédagogiques, on peut se dire que ben, quand on est dans l'enseignement à distance, on est dans de la transmission d'informations, évidemment. Et donc, on n'a pas ce rapport scientifique à l'école que l'on a lorsqu'on est en présentiel. Ça, c'est un élément. Un autre élément important, c'est que il faut savoir que pour réaliser des apprentissages, il n'y a pas seulement le prof et l'élève. Le groupe joue un rôle important là-dedans. C'est-à-dire, le groupe, concrètement, joue un rôle important dans la construction des savoirs. On n'apprend jamais seul. On apprend toujours avec les autres. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bon, par exemple, ça, on a mis en évidence encore relativement récemment dans les sciences de l'éducation, c'est que, bon, d'une part, on apprend aussi en voyant les autres apprendre, ce qui, dans l'enseignement à distance, évidemment, est beaucoup plus compliqué. Et d'autre part, il y a des stratégies d'apprentissage telles que, et là, on rejoint un peu l'élément de la valeur du groupe, c'est que apprendre en sous-groupe via ce qu'on appelle parfois les apprentissages coopératifs, ce sont des modalités importantes pour progresser dans les apprentissages aussi. Et puis enfin, je dirais que ben, les apprentissages scolaires, c'est un des objectifs évidemment de la scolarité, mais c'est pas le seul objectif. Il y a un deuxième objectif, me semble-t-il, qui est au moins tout aussi important, et on peut le formuler comme ça, c'est que l'école, c'est pas simplement apprendre du français, des maths, de la géographie, etc., etc., mais c'est aussi vivre une expérience socialisatrice. Et donc, ça, évidemment, ça ne peut se réaliser que sur place, en présentiel, avec les autres, et pas à distance, quoi. Donc, voilà. Oui, on a beaucoup parlé, forcément, de l'enseignement à distance ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais ça s'est imposé un peu malgré nous, quoi, finalement, parce que c'était mieux que rien, quoi, quelque part. Mais en même temps, je pense que l'enseignement à distance n'a pas vocation à remplacer l'enseignement en présentiel pour les raisons que je viens de dire, quoi. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Et je pense qu'on se sera de toute façon amené à reparler de ce fameux enseignement à distance. Chantal, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je voulais dire que vive l'enseignement en chair et en os. Et je voulais dire à Eric, vivement qu'on te retrouve en chair et en os.
Et très bien, ben oui, vivement. Hein. Bientôt, bientôt.
Bientôt, merci bientôt. Merci beaucoup, Eric. Et on te souhaite une bonne fin d'après-midi.
On enchaîne
avec le
chapitre.
À bientôt, Eric. On enchaîne avec la deuxième partie, le chapitre 2 des claques,
des têtes à claques, les prémices macabres. Mon écran de télévision s'allume tout seul désormais. On dirait que le gouvernement s'exprime dans la lucarne. De gentils journalistes leur prêtent complaisamment leur voix.
Dans l'ensemble, la population a bien compris la nécessité du confinement. Cependant, il reste quelques irréductibles récalcitrants qui n'ont pas encore goûté à la douceur du cocooning.
Puisque la douceur et la raison ne leur parle pas. Des claques, foutez-leur des claques à ces jeunes gaulerons. Un logement trop petit, insalubre. des excuses, tout cela circuler. Je crois que le confinement s'attaque à mon ciboulot. Je sais plus très bien qui j'ai en face de moi. Un flic, un journaliste, un politicien. En live à la sortie du Conseil National de Sécurité, la journaliste Made in RTB court afin d'être la première à interviewer Sophie et Elio.
Alors, on renforce les mesures de confinement? On est capable d'être plus ferme? On va sanctionner?
Elle ordonne plus qu'elle ne questionne. Décidément, ce confinement me perturbe. C'est ma vue maintenant qui est altérée. Journalistes et politiques sont plus proches que jamais. 1m50, c'est une question de perspective.
Ça fait beaucoup.
Des claques, putain, des claques!
Ma santé mentale se dégrade à vue d'œil. Je souffre d'hallucinations. Je crois voir cette même journaliste en compagnie d'une charmante centenaire. Madame Rose, vive, fringante et très élégante, lui ouvre les portes de sa confortable demeure. Ma vision se précise encore. Nos protagonistes passent en terrasse, côté jardin, et dégustent thé et mignardises. Elles discutent. Madame Rose ne pourra pas fêter son jubilé avec sa famille. Elle devra rester seule pour ses 100 ans. Notre téméraire reporter, bravant vents et marées, nous a proposé un sujet d'importance qui ne pouvait, c'est sûr, être traité par visioconférence. Tant pis, si ce faisant, elle met en danger notre centenaire. L'information ne saurait souffrir de distance. Il y a décidément ceux qui respectent le confinement et puis les autres.
C'était ta claque.
Le temps s'étire doucement.
C'est comment d'avoir 20 ans ou 4 fois 20 ans au temps du corona?
C'est flippant, pas excitant, frustrant. Tous ces élans et ces énergies brimées, tous ces bisous réprimés. C'est comme si la vie était mise entre parenthèses, partiellement annulée, postposée.
Mais a-t-on le temps d'attendre quand on a 4 fois 20 ans?
Aujourd'hui est précieux comme jamais. Demain peut se dérober à tout instant. Marguerite et Henri, du haut de leurs 170 ans communs, regardent mélancoliques à travers la vitre. La rue ne leur offre plus aucun réconfort, rien ni personne n'y passe. Les enfants et les petits-enfants s'apparentent plus à des fantômes qu'à des réelles présences. Certes, on peut les voir sur les écrans, mais il est devenu impossible de les toucher, de les sentir sans stimulation affective et émotionnelle. Marguerite et Henri se laissent doucement dériver. À quoi bon se battre? Pour qui? Pourquoi? Marguerite, Henri et tous les autres.
Essuie et claquemurés
ne savent plus comment occuper leurs pensées. L'anxiété règne en maître, elle est palpable. Les murs du home transpirent l'ennui et la peur. Au bout du couloir, certaines chambres marquées des stigmates Covid-19 réveillent les pires cauchemars. Dans ces chambres-là, on meurt, privé de tout. Le ballet des cercueils sinistres chorégraphie habite l'espace. La grande faucheuse attend sa moisson, confinée ensemble. Des personnes à risque, alors que le personnel n'est ni dépisté, ni équipé de masques, se révèle être une aberration, une abomination.
Des claques,
épuisés, à bout de ressources. Les directions de maisons de retraite ont dû faire appel à l'armée. Les experts nous ont vendu le confinement pour protéger nos aînés. Personne ne leur a demandé comment vivre et mourir. Désormais, casqués et protégés par des blindés, ils ne seront plus sacrifiés puisqu'on vous le dit.
Des claques, des claques.
Et oui, c'était donc le chapitre 2 des claques murées et les têtes à claques, les prémices macabres. On va maintenant appeler Véronique de Thiers, responsable de la régionale à Bruxelles pour l'AFAPEO. Est-ce qu'on a Véronique?
Oui, je suis là.
Bonjour Véronique, sois la bienvenue à cette émission des jeunes radioactifs sur Radio Panique.
Bonjour Véro.
Alors,
salut Chantal.
On a quitté Eric avec la question de l'enseignement à distance et des inégalités qu'il peut engendrer. On va commencer avec toi avec une question qui porte aussi sur cette thématique. Donc je te la pose. De l'avis unanime, les bouleversements rencontrés lors de cette année scolaire ont engendré plus d'inégalités. Dans ce cadre, comment est-ce que l'AFAPEO se positionne par rapport à l'enseignement à distance?
Mais donc le constat, évidemment, c'est que notre système scolaire est déjà très inégalitaire à la base. Les enfants les plus défavorisés sont grandement victimes de l'échec scolaire, de l'orientation et de la relégation. Et donc, effectivement, quand le confinement a commencé et que on a mis en place une forme d'enseignement à distance, on a très vite perdu les publics les plus éloignés de l'école. Alors, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, il était plus compliqué d'être équipé de manière numérique. Donc ça, on sait qu'il y a une la fracture numérique et donc les jeunes n'avaient pas accès aux outils, ni parfois à la connexion, ni parfois aussi l'espace pour permettre de travailler à la maison. Ils n'avaient pas, ils n'ont pas non plus, et c'est bien ce qu'on relève déjà pour les travaux et le travail scolaire en général à domicile et les devoirs à domicile, un soutien dans les familles. Donc effectivement, cette période longue sans école, sans apprentissage en présentiel a effectivement renforcé les inégalités. Alors il y a certaines écoles et certains pouvoirs organisateurs qui ont vraiment fait l'effort d'aller à la rencontre des familles, hein, qui ont parfois même été jusqu'à sonner aux portes pour rencontrer les parents, les enfants et avoir un échange avec eux. Donc c'est une démarche évidemment très très positive, mais pour tous les autres, on les a perdus pendant cette période. Donc si on devait envisager par la suite de perdurer dans ce système d'alterner l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance, il y a vraiment une urgence à réfléchir non seulement aux outils disponibles, mais aussi au soutien nécessaire à ces enfants qui n'ont pas de soutien et qui n'ont pas les locaux nécessaires. Donc voilà, nous on a essayé vraiment de réfléchir à cette question-là et d'interpeller toutes les autorités et de les sensibiliser à cette question. Et je dois dire qu'on a une bonne écoute du côté des pouvoirs publics et donc ils essayent vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour contacter ces parents qui, au-delà de toutes les questions de précarité, ont aussi souvent, dans par exemple à Bruxelles, le problème de la barrière de la langue. Hein. Donc c'est très très compliqué parce qu'ils n'ont pas non plus accès à toutes les informations. Qu'on est dans l'écrit majoritairement dans l'enseignement à distance, donc c'est vraiment très très compliqué et il faut vraiment absolument aller chercher des solutions.
Justement, à propos de ces inégalités et du décrochage scolaire, on admet communément que ce décrochage scolaire est assez massif aujourd'hui et qu'il constitue 15 à 20% de l'effectif des jeunes qui fréquentaient l'école avant le confinement et qui seraient restés sans contact et sans contact avec l'école. Que faire ? Est-ce que il y a des solutions qui ont été pensées par rapport à cette problématique lourde ?
Déjà, je pense que le constat, effectivement, déjà, le décrochage scolaire, il est impressionnant hors confinement. Hein. Donc, à Bruxelles, les chiffres du décrochage scolaire sont déjà pas loin de ce pourcentage-là. Et donc, on a effectivement perdu entre 15 à 20%, encore qu'on n'a pas une étude sur le nombre d'enfants qu'on a perdu. On sait, il y a des PO qui ont recueilli l'information, d'autres pas. Donc, je pense que ce serait aussi intéressant d'avoir une vision plus affinée de cette problématique et de voir quel public ça touche. Moi, je pense que, enfin, nous pensons, en tout cas, à la FAPEO, que ça doit faire réfléchir sur l'école, hein, parce que là, ces derniers jours, j'ai appelé quelques directions d'école pour un petit peu avoir leurs sentiments par rapport aux enfants qui étaient revenus ou pas revenus à l'école. Et les directions d'école s'étonnaient que des enfants en échec scolaire ne revenaient pas à l'école. Et donc peut-être que se poser cette question sur notre système qui évalue, met en échec, oriente, relègue, doit vraiment se faire en profondeur, parce que je pense que ces enfants qu'on a perdus et qui ne reviennent pas à l'école malgré qu'ils sont concernés par la reprise, ce sont des enfants qui ont un mauvais rapport à l'école. Et donc, il faut vraiment travailler sur ce rapport à l'école, sur le fait que les jeunes aient envie d'aller à l'école, que l'école soit ressentie comme positive et non pas comme une souffrance. Et retourner à l'école pour, je veux dire, il y a des jeunes qui disent retourner à l'école pour quoi faire, pour qu'on me dise que je suis un échec, pour qu'on me dise que je suis un bon à rien. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce rapport à l'école et que cette crise et ce confinement et cette fermeture des écoles nous invite à nous interroger sur l'école, vraiment. Et je pense qu'on a vraiment des leçons à en tirer. Et si on veut faire autre chose demain et travailler en profondeur sur cette question des inégalités, il y a vraiment des leçons à tirer de ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, Véronique. Et je voulais revenir sur une des possibilités qu'offre la circulaire. Elle dit, elle propose que des jeunes en difficulté puissent retourner un jour à l'école pour être suivis, pour faire face à leurs difficultés. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux et est-ce qu'il n'y a pas eu sur la table une proposition de faire revenir en priorité les jeunes en échec ou les jeunes qui avaient décroché et pas les jeunes qui allaient vers un certificat? Et qu'est-ce qui a fait que, in fine, la décision qui a été prise n'a pas été celle-là?
Mais donc les pouvoirs organisateurs avaient en quelque sorte une forme de latitude, c'est-à-dire que à partir du 25 mai, on faisait rentrer les deuxièmes secondaires, on pouvait faire rentrer les premières différenciées et on pouvait aussi faire rentrer les élèves en difficulté. Alors il y a eu effectivement des pratiques différentes en fonction des écoles. C'est probablement dommageable puisqu'effectivement on aurait dû cibler ces publics en difficulté scolaire et les ramener à l'école. Encore faut-il, et c'est là je pense que la vraie question se pose, il y a des écoles qui ont essayé, de faire revenir plutôt ces publics en difficulté, mais ils ne sont pas revenus. Et donc, et pourquoi ne sont-ils pas revenus, hein? Donc c'est vraiment toute cette question aussi du rapport à l'école, de ce regard que l'école pose sur eux, parce que faire revenir les publics les plus en difficulté, c'était effectivement une intention, et je pense une bonne intention, en même temps c'est stigmatisant. Donc on nous fait revenir à l'école parce que nous sommes en difficulté, parce que nous ne sommes pas bons à l'école, parce qu'on est en échec. Et donc qu'est-ce que l'école va nous apporter dans ce cadre-là? Donc je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire sur cette question-là, sur comment aider ces enfants qui sont en difficulté, comment leur apporter des réponses face à leurs difficultés. Donc c'est très très compliqué. Et donc il n'y a pas eu une politique globale pour toute la communauté française en disant voilà, on fait revenir par priorité les élèves en difficulté. Certaines écoles ont choisi de le faire, d'autres pas.
On aurait pu dire les choses d'une manière différente et dire sans stigmatiser justement les jeunes, mais le rôle de l'école c'est de faire réussir les jeunes. Alors pour tous ceux qui sont en situation de réussite, eh bien on continuera à travailler avec eux, mais on va d'abord promouvoir la réussite de ceux qui sont en difficulté. Ça aurait pu être l'état d'esprit, ça aurait pu ne pas être stigmatisant.
Je pense qu'il y a des pouvoirs organisateurs qui sont tout à fait dans cette dynamique-là. En tout cas, on a des échos que pour le réseau organisé OEBE, ils sont tout à fait dans cette dynamique-là. Ils ont été vraiment proactifs et ils ont voulu privilégier justement les jeunes qui avaient des difficultés pour les faire revenir à l'école pour promouvoir la réussite. Donc je pense qu'il y a des pouvoirs organisateurs qui sont tout à fait dans cette dynamique-là. Maintenant, effectivement, ça aurait pu être une disposition imposée à tous. Je pense que quelque part, la crainte, c'était de donner un message aux autres. L'année est finie et vous avez réussi. Alors pour nous, à la FAPEO, ce n'était pas un problème en soi, dans les circonstances dans lesquelles on est, de dire aux enfants qui avaient réussi, ils ont réussi, puisque de toute façon, l'évaluation se fera globalement jusqu'au 13 mars. Les jeunes qui ont réussi, ils le savent. Donc on aurait effectivement pu privilégier ce message, c'est-à-dire de faire revenir les jeunes en difficulté en leur disant c'est pas une punition, mais c'est pour vous aider et pour vous amener vers la réussite de cette année. Mais je dois dire qu'il y a des écoles qui le font. Pas toutes, mais il y a des écoles qui privilégient cette approche-là.
D'ailleurs, la FAPEO a également été proactive durant cette période de confinement et envoyé plusieurs enquêtes à l'adresse de ses membres. Pourrais-tu nous en parler?
Donc, comme tout le monde, on a été confinés. Pour nous, il était évidemment très très important de pouvoir consulter les parents et avoir leurs impressions et avoir un retour de leur part sur Dans un premier temps, on a fait une enquête où 4500 parents ont répondu sur, en gros, sur les apprentissages à distance, la possession ou pas d'un ordinateur, l'autonomie ou pas d'un enfant face aux apprentissages. En fait, on a fait une première enquête qui tentait de vérifier si la circulaire relative aux apprentissages à distance était bien respectée. Alors, on a certainement, et ça on doit le reconnaître, dans notre communication, on est toujours très très attentif à dire que, évidemment, on touche un public qui a accès à, de nouveau à ces outils numériques, et donc la situation est certainement encore plus problématique que celle qui a été révélée dans notre enquête. Donc, dans notre enquête, on a effectivement vu que les enfants n'étaient pas autonomes face à leurs apprentissages, que tous ne disposaient pas d'un ordinateur, qu'on sollicitait énormément d'impression de documents. Hein, donc il y a aussi cette question, on n'a pas tous une imprimante à la maison. Donc effectivement, ça a révélé un gros problème en termes d'apprentissage à distance. C'est-à-dire que les conditions n'étaient absolument pas réunies pour que ces apprentissages puissent se faire de manière optimale. On a aussi vu que la circulaire n'était pas respectée dans le sens que les nouveaux apprentissages étaient abordés surtout principalement dans le secondaire, qu'il y avait des notes qui étaient mises sur les apprentissages à distance. Donc en effet, on a cette enquête, on a évidemment, pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir porter aussi des positions et les positions des parents dans nos réunions avec la ministre. Je pense que c'est très, très important. Et parallèlement à cette première enquête, on a aussi sondé des organisations qui travaillent avec des publics plus éloignés pour aussi avoir un petit peu le son de cloche des parents qui n'étaient pas touchés directement par notre enquête. Hein. Donc je pense que ça, c'est très, très important. Donc, pour le moment, on est en train de faire une deuxième enquête qui concerne le retour à l'école ou la continuité des apprentissages à distance. Et là aussi, c'est pour avoir le sentiment et l'impression des parents par rapport à ces apprentissages à distance et le retour à l'école et comment ça se passe, comment les enfants vivent ce retour à l'école, est-ce qu'ils supportent le masque, est-ce qu'ils ne le supportent pas, est-ce que les relations et les interactions sociales sont bonnes. Donc pour le moment, on en est à 2500 réponses. On va laisser encore courir au moins pendant une semaine pour avoir un retour plus complet, puisqu'on pose aussi les questions sur avez-vous reçu des informations concernant les modalités de fin d'année, les conseils de classe, est-ce qu'on vous a contacté si votre enfant était en difficulté, qu'est-ce qu'on a mis en place. On essaye de pouvoir avoir une photographie le plus juste possible de ce qui se passe dans les rapports avec l'école, puisque pour le moment c'est compliqué de faire autrement, puisqu'on ne peut pas faire de réunion en présentiel. Donc il faut contacter les parents par ce biais-là, et de nouveau on contacte des associations qui travaillent avec les parents de milieux plus précarisés pour avoir leur retour par rapport à ces questions-là.
Oui, Véronique, tu disais vous avez des retours des parents à travers ces enquêtes. L'école à la maison, c'est papa ou c'est maman?
Ah, alors l'école à la maison, c'est maman. Hein, donc effectivement, dans la première enquête, on voit que la proportion des mamans qui répondent à l'enquête, et c'est un indicateur évidemment, hein, donc la proportion des mamans qui répondent à l'enquête est de l'ordre de 80%, donc c'est énorme. Hein, ça veut dire que ce sont globalement les mamans qui s'occupent du suivi scolaire. C'est un facteur, évidemment, parce que ce confinement, non seulement il a renforcé les inégalités, mais il a aussi pesé très lourdement sur les femmes, globalement. Et donc, c'est très, très compliqué pour les mamans à la maison qui sont en télétravail et qui, en plus, doivent s'occuper du suivi scolaire de leurs enfants. Donc ça, c'est aussi une question fondamentale. C'est que, évidemment, dans notre société, l'égalité de genre, elle n'est pas encore là, hein, sur ce point-là.
D'accord. Alors, tu as déjà en partie évoqué la problématique, mais la question se pose de savoir comment va être géré ce début et cette fin d'année simultanée, on va dire, hein, mai-juin, début d'année, fin d'année. Notamment, est-ce qu'il y a des mesures particulières qui ont été prises ? Je pense au redoublement, je pense au règlement des études, je pense au recours. Est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions qui ont été prises en ces matières ?
Oui, donc il y a effectivement de nouvelles dispositions particulières qui ont été prises par rapport à la fin d'année et qui effectivement mettent des balises. Hein. Et donc je pense que la ministre a été très claire dans ses messages. Donc il y a le redoublement doit être exceptionnel, l'ajournement, donc à savoir les examens de passage, hein, donc ces fameux examens de passage doivent aussi être exceptionnels. Donc il y a aussi une obligation pour les écoles d'associer dans un dialogue avant une décision en conseil de classe les élèves et leurs parents. Hein, donc il y a vraiment cette volonté d'associer dans un dialogue les parents et l'élève. Donc ce sont des balises qui se trouvent dans une circulaire, qui doivent s'appliquer à toutes les écoles et qui devraient se retrouver dans un règlement général des études communiqué aux parents avant le 31 mai. Ce règlement général, puisque le règlement général des études, qui normalement est soumis aux parents lors de l'inscription, est suspendu. Hein, puisqu'on est dans des circonstances particulières, il est suspendu. Donc les écoles doivent toutes communiquer avant le 31 mai, donc avant dimanche, un nouveau règlement général des études avec les balises qui sont précisées dans une circulaire. Alors dans ces balises, donc comme j'ai dit, pas de redoublement exceptionnel, ajournement exceptionnel. Le conseil de classe ne peut pas fonder ses décisions sur des évaluations qui auraient eu lieu à distance. Hein, donc il doit uniquement fonder ses appréciations sur des résultats d'épreuves organisées en classe, sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons. Donc c'est vraiment très très précis. Donc ces principes doivent se retrouver dans le règlement général des études. Hein. Donc c'est vraiment très très important. Et donc là, il faut aussi effectivement communiquer de manière positive aux parents. Nous, à la FAPEO, on essaye maintenant, on a des règlements généraux des études qui nous parviennent où il y a des écoles qui respectent absolument pas la circulaire. Et d'autres, donc de nouveau pour le réseau BBE, nous avons reçu le règlement, les modalités qui s'appliqueront à toutes les écoles du réseau, et c'est très très clair, il n'y a pas d'examen de passage, il y a un redoublement qui est vraiment exceptionnel, donc parce que les critères pour envisager le redoublement dans ce réseau sont fixés, donc si l'élève a pour 70% de la matière moins de 50%, il n'y a même pas encore un redoublement qui est pris, c'est que le conseil de l'école est invité à contacter les parents et l'élève, à les inviter à un dialogue, à inviter à examiner la situation de l'élève et son projet avant de prendre une décision. Donc je pense qu'il y a vraiment là une volonté de respecter complètement ce qui se trouve dans la circulaire. Il y a d'autres écoles où clairement, c'est pas les dispositions ne sont pas respectées. Alors évidemment, donc il y a le règlement qui doit être communiqué avant le 31 mai, les parents qui doivent être contactés avant que le conseil de classe ne prenne une décision. Donc, et puis il y a le conseil de classe qui prend sa décision et qui pourra soit faire une décision de passage, une décision d'ajournement ou une décision d'orientation. Bien entendu, les recours auront toujours lieu. Donc, il y a d'abord la conciliation interne qui aura lieu. Et ensuite, il y a toujours évidemment la possibilité du recours externe. Ce que je pense qui est important de savoir, c'est que les balises qui sont dans la circulaire ne seront pas respectées, il faudra évidemment en faire état dans les recours qui seraient adressés aux autorités.
Véronique, la régie me rappelle l'heure qui tourne et nous avons encore plein de questions, y compris sur une tendance qui se dessine à ramener à l'école encore un certain nombre d'élèves et sur ces raisons. Mais je crois que ces questions, nous allons te les poser dans une émission ultérieure. Je te remercie beaucoup pour ta participation et je repasse la parole à Julien. Merci Véronique.
Merci beaucoup Véronique et bonne fin d'après-midi. Au revoir. Et donc on enchaîne avec une nouvelle pause musicale. Toujours les claques murées et les têtes à claques, chapitre 3, les confinés vainqueurs.
Et quoi ? Vous n'êtes pas sur votre balcon ? Vous n'êtes pas en train d'applaudir nos valeureux héros ? Quel défaitisme ! Quel manque de civisme ! N'oubliez pas, désormais, vos moindres mouvements peuvent être détectés. Tout se sait, tout sera dénoncé. Honte à vous.
Je reste saisi. Comme en apesanteur. Par quel magnifique tour de passe-passe nous voilà assignés, pas seulement à résidence. Nous devons aussi nous justifier constamment. Restez chez vous, tête à claque. Des claques, des claques. Vous avez grappillé quelques instants fugaces de bonheur. Vous vous êtes émerveillés devant ces arbres en fleurs. Rentrez chez vous, pleurez tant que vous le pouvez encore. Vos yeux sont secs. Quant au plus au fond de vos gorges, nous y placerons nos respirateurs. Pleurez, pleurez pendant qu'il est encore temps. Il nous appartient d'oxygéner, si tel est notre bon vouloir, ce qui vous reste de cerveau. Des claques, des claques. Des applaudissements nourris viennent doubler le chant des sirènes. Je n'en peux plus, je voudrais faire une pause. Faites silence, s'il vous plaît. Décidément, mes désirs font désordre. Le ululement bleu reprend de plus belle. Il vrille mes oreilles, me clôt les yeux et s'empare par vagues de mes synapses. La lucarne n'a pas cessé son activité. Elle vomit des informations. Le pic est atteint, ou plutôt il l'était hier, ou il le sera demain. Quoi ? D'intrépides voyageurs ont atteint des sommets, l'Everest, le Mont Blanc, le Kilimanjaro. Mais non, idiot ! Le temps n'est pas au voyage heureux. Nous te parlons de ceux qui ont rejoint les rives de l'hôpital, des soins intensifs ou encore plus loin, ceux qui voyagent désormais sans bagages. En ce jour d'avril, on déplore 2000 morts aux États-Unis, 500 en Angleterre. Boris, qui se croyait invincible, est terrassé et n'a plus la charge du gouvernement. Partout, on meurt en grappe et en paquet. Restez confinés, qu'on vous dit. Mais ose une petite.
Est-ce qu'on meurt aussi en Allemagne, en Suède, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour ? Le virus y danse-t-il une telle gigue ?
L'heure est à l'urgence, pas aux questions. L'heure est à la peur et à la culpabilité. Cessez de raisonner ! Des claques, des claques. Rendez-vous utile. Faites preuve de solidarité et de citoyenneté. Ok, d'accord. Ne vous énervez pas. Demain, je serai sur mon balcon. J'applaudirai à tout rompre, tous nos héros, y compris Sophie, Maggie, Charles. On leur doit tant. La modernisation de la sécu, des soins de santé, ils savent, eux, gérer sans gabegie. Ma reconnaissance leur est tout acquise. Des claques, des claques. Cela n'est pas suffisant. Il vous faut faire un monde honorable, vous rendre utile. Nous avons perdu beaucoup de temps à vous surveiller. Il vous incombe pour l'avenir de nous aider.
Vous connaissez les étangs noirs ?
Noirs, comme leur réputation et leur face. Fais gaffe à tes fesses. C'est un nid d'immigrés, d'anarchistes et de pauvres. Vous allez vous mettre à leur service, soulager les mères de familles nombreuses, faire leurs courses. Ensuite, vous nous direz tout. Qui parle avec qui ? Qui couche avec qui ? Qui fricote et parle politique ? Il faut être prudent. On ne sait pas ce qu'ils mijotent là-bas. Faites votre devoir. Soyez un zélateur zélé. Des claques, des claques.
Et donc c'était les claques murées, les têtes à claques, le chapitre 3, le confiné vainqueur. Et c'était l'émission des jeunes radioactifs sur Radio Panique avec le partenariat avec InfoJeune Lycan. D'ailleurs, si tu veux des infos supplémentaires, tu peux aller sur le site d'InfoJeune Lycan, www.inforjeune.eu. Je répète, inforjeune.eu. Un numéro de téléphone aussi de contact, c'est le 02 421 71 30. 02 421 71 30. Si tu veux faire partie de notre équipe, tu peux appeler à ce numéro et tu demandes Aurore. Donc c'était, comme je l'ai dit, la bande des jeunes radioactifs. On se donne rendez-vous en mai pour une nouvelle aventure. Merci à vous tous d'avoir écouté notre émission. Je pense que tout a été dit.
Et non. Une petite Chantal. Précision. Oui. Nos permanences sont réouvertes au public.
Merci Chantal. On se quitte avec les claques murées et les têtes à claques, chapitre 4, 100 fois ni masque.
Hé poulette, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut pas s'aimer. Viens ici, je te dis. Hé princesse, pas de stress, je te kiffe, je te veux, je suis raide de toi. Bah, tu vas pas me laisser dans cet état. Hé salope, tu comprends pas? Je suis fou de toi. Et toi, tu me calcules pas.
Des claques, des claques.
On manque de tout, de liberté, d'amitié, de fraternité. T'as rien compris, mon pote. Cultive ton potager, c'est permis, vas-y, lâche-toi. Les potirons, les melons, le pognon, c'est pour toi. Arrête de tourner en rond. Cultive ton potager. J'en ai marre qu'on me raconte des salades, qu'on me prenne pour un pruneau ou une patate, c'est ta tête que je vais jardiner.
Des claques, des claques.
Hé, mademoiselle, tu me donnes ton Insta? T'es fou quoi? Tu crois que ton GSM c'est ton meilleur ami? T'as rien compris, t'as rien appris. Ils vont nous tracer, nous chasser, nous incarcérer. La liberté c'est fini pour toi et moi. C'est la puce qui transmet le virus. Ironie et tyrannie, tu croyais acheter ta liberté, te voilà enchaîné. C'est avec joie et fierté que t'as tissé ton bracelet électronique. Électrochoc.
Des claques, des claques.
On manque de tout. De douceur, d'ardeur, mais pas de rancœur. Arrête de te lamenter. Le confinement, c'est que du bonheur. Ah bah, t'as pas envoyé ta vidéo à la RTB? T'es pas foutu de faire du kayak dans ton salon? De l'escalade sur le mur de ta maison? Abruti, va. T'as raté ta vie. Jamais on te décernera la Légion d'honneur du confiné vainqueur. Sors ta puce que je m'éclate, t'as compris? La RTB, désormais, c'est pas pour toi.
Des claques, des claques! Merde, merde, j'ai pas fait gaffe. Il est sorti de la lucarne. Sa tête remplit mon salon. Mi-flic, mi-journaliste, il se déchaîne, il vocifère. Des sanctions, Adil, tu sens des sanctions, la mort, la mort. Il me fait peur avec sa gueule enfarinée. Il ne s'est jamais si bien porté. Le confinement lui donne des ailes, lui rosit les joues et lui lime les dents en biseau. C'est un carnassier, trop poli pour être honnête. Arrogant, mais pas franc. Le confinement, c'est sa tasse de thé, sa jouissance quotidienne. Ils ne sont rien, ne peuvent plus bouger, à peine respirer. Je suis tout, je suis partout. Il gonfle, comme la grenouille plus grosse que le bœuf. Le vide est intersidéral.
Des claques, putain, des claques.
Triste aujourd'hui, descente aux enfers. Je suis pénurie, le frigo est vide. Ma mère me réclame à corps et à cri des masques et du gel hydroalcoolique. J'ai usé mes souliers, j'ai écumé toutes les pharmacies, rien. Les fournisseurs attendent. Livre au goutte à goutte. Nos vies en suspens, pénurie ici et ailleurs, pas de masque, pas de matériel, pas de respirateur, pas de médicaments, pas de tests, l'hôpital attend. Les homes se désespèrent, la mort galope.
C'est ta faute, reste confiné, t'avais qu'à pas commencer.
Réveille-toi, secoue-toi, cours et achète du pain. Mes pieds sont fatigués, je n'irai pas au supermarché, aujourd'hui ce sera à l'épicerie du coin. Je musarde et m'étonne. L'ai-je bien vu? Des montagnes de gel de toutes les couleurs, bleu, blanc, rouge. C'est pas mon drapeau, pas ma batterie. Je m'enhardis, l'épicier porte un masque. Peut-être sait-il où s'en procurer, je lui demande. Sous mes yeux ébahis, il sort des boîtes de masques. J'ai le choix pour les FFP2, il pourra me livrer samedi. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Je sais, je vais donner à Sophie et Maggie le téléphone de mon épicier. Ils pourront lui commander des masques, des tests et soyons fous. Des vaccins.
Claque murée je suis, claque murée je demeure.
Pas de tests. Pour 1000 ans, je vous déteste.
Bah les masques.
Tête à claque, des claques, des claques.